bienvenue, voici le bistrot de la vie. Ça commence comme un conte de fées, c'est une belle histoire d'amour, ça se termine en tragédie puisqu'il y a séparation au divorce avec des enfants, et vous allez le voir ce matin, certains de ces enfants sont pris en otage par l'un des parents. Il est vrai que le nombre de séparations et de divorces ne cesse d'augmenter, entraînant trop souvent son lot de douleurs et de frustrations dont les enfants et les parents sont dans nombre de cas les victimes. Les perturbations aussi bien psychiques que matérielles touchent non seulement les individus concernés, mais également la société dans son ensemble, dès lors que la rupture des liens que constitue la cellule familiale, si elle s'inscrit dans un conflit permanent, ne peut qu'entraîner perte de repères, fuite dans les illusions de l'alcool, de la toxicomanie, de la dépression, du chômage et surtout atteindre l'équilibre de l'enfant. Souvent, soyons honnêtes, les parents qui se séparent ou qui divorcent sont inquiets des conséquences éventuelles que cela peut avoir sur leur enfant. Les parents, même s'ils sont préoccupés par leurs propres problèmes, se rendent le plus souvent compte qu'ils sont les personnes les plus importantes de la vie de leur enfant. Alors, me direz-vous, tout va mieux dans le meilleur des mondes ? Pas vraiment, car de plus en plus, on en parle, c'est moins tabou, les enfants deviennent les otages de parents qui se déchirent. Nous parlerons ce matin d'aliénation, le mot est fort, parentale, qui représente une maltraitance psychologique subie par trop d'enfants dans notre pays. Le standard est ouvert si vous connaissez cette situation, si vous avez envie d'en parler, si vous voulez témoigner ou poser des questions à nos invités. N'hésitez pas, 0892 68 80 30, et voici nos invités. Je vous propose de rencontrer des personnes qui ont connu ces choses, et puis une association qui peut vous aider, et la présidente de l'association ACALPA est là ce matin, c'est Olga Ordinets, je vais y arriver. Ordinets, et petite donc ce matin. Pourtant j'ai mis les lunettes. Bonjour Olga.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons également Christine qui est présente. Bonjour Christine.
Bonjour.
Christine, vous êtes maman de deux adolescents. On en parlera tout à l'heure. Juste un mot, vous ne les avez pas vus depuis combien de temps ?
Là, ça fait un an.
Ça fait un an. Et puis également à nos côtés, puisqu'il n'y a pas que les papas ou les mamans, ou on peut croire qu'il y a que les mamans ou les papas, mais tout le monde est touché. Luc est également présent. Bonjour Luc.
Bonjour et merci.
Merci à vous d'être là et de témoigner. Luc, vous n'avez pas vu votre petit garçon depuis combien de temps ?
Je ne l'ai pas vu de manière confortable et normale depuis 4 ans.
Depuis 4 ans. Il a quel âge maintenant ?
Actuellement, il a 9 ans.
Il a 9 ans. Et vos adolescents ont ?
23 et 21.
Très bien. Alors, Olga, on va démarrer avec vous. Comment est née votre association ?
Alors, ACALPA s'est construite il y a à peu près 2 ans à partir d'une initiative citoyenne de parents, d'hommes et de femmes, en rupture de lien avec leurs enfants suite à un divorce extrêmement conflictuel. Alors, ACALPA a mis en place une démarche transversale qui réunit non seulement les familles, mais également les professionnels du droit et de la santé concernés par la protection des enfants dans les séparations parentales.
Alors, on détaillera avec vous tout à l'heure dans cette émission ce que vous proposez, ce que vous faites. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, Olga, de quantifier le nombre d'enfants, j'allais dire, donc otages du divorce de leurs parents ? C'est difficile, ça ?
Alors, nous sommes devant une grande difficulté en ce qui concerne l'évaluation du public cible, donc des familles en rupture de liens familiaux. Les seuls chiffres dont nous disposons, ce sont ceux fournis par la police. Et donc, c'est à peu près 30 000 plaintes pour non-représentation d'enfants enregistrées tous les ans.
Alors, également, ça, c'est quand il y a plainte à la police.
Voilà, ça, c'est...
Tout le monde ne le fait pas.
Non, tout à fait. Et donc, c'est une énorme sous-estimation des situations de délit dans ce domaine de garde ou de droit de visite et d'hébergement. Il faut savoir que les plaintes ne représentent qu'une seule partie des délits, puisqu'il y a également les mains courantes qui ne sont pas chiffrées, dont les chiffres ne sont pas disponibles. Alors, un autre chiffre qui est tout de même alarmant, ce sont le nombre de procédures qui sont déposées tous les ans devant les juges aux affaires familiales. Alors, les dossiers qui concernent les contentieux, qui concernent l'autorité parentale, représente 100 000 dossiers par an.
C'est beaucoup. Alors, je voudrais qu'on revienne sur deux mots assez forts. Hein. C'est le mot otage. Est-ce qu'il n'est pas un peu usurpé, là, otage ?
Alors évidemment, beaucoup de divorces, il ne faut pas dramatiser les séparations parentales. En soi, deux parents qui se séparent, ce n'est pas un problème. C'est une rupture à gérer.
C'est une rupture à gérer pour les parents, mais c'est toujours quand même un problème pour les enfants.
Oui, hein. c'est toujours un problème pour les enfants. Pourquoi ? Parce que l'enfant, on oublie trop qu'il n'est pas seulement un objet juridique, mais également un sujet d'amour. Alors un enfant, il aime ses deux parents. Et donc, il souffre d'une triple souffrance, la sienne, la perte des illusions du couple parental. Il souffre de la souffrance de sa mère et de la souffrance de son père.
Alors, ce beau otage, je me tourne vers vous, Christine. On racontera ce qui s'est passé. Mais par rapport à vos enfants, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont été otages ? Et de quoi ?
Oui, alors moi le problème est un petit peu différent dans le sens où c'était des enfants qui étaient adolescents à l'époque où ça s'est passé. Donc, ils avaient 15 et 17 ans. Donc, la manipulation n'est pas la même qu'envers des petits-enfants et les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais néanmoins, dès la séparation, j'ai senti effectivement une rupture avec eux et un changement d'attitude de leur part qu'au départ, je n'ai pas du tout su interpréter parce que on n'est pas du tout préparé à ça.
Oui. Luc, vous pensez que ce mot « otage » pour votre fils, il est bien nommé ?
Oui, je parlerai aussi de traumatisme, parce que pour moi, une séparation, la séparation de deux personnes qui se sont unies, est un traumatisme pour l'enfant. L'objectif théorique pour des parents aimant leurs enfants et ayant souci de le porter au monde est à mon avis, en premier lieu dans le cas d'une séparation, de ne pas transformer ce traumatisme en trauma au sens psychanalytique du terme, ce qui est reporté dans toutes les analyses. Et c'est ce sur quoi nous luttons, afin que nos enfants, tous les enfants qui sont victimes de l'aliénation parentale, ainsi que les enfants issus de nos cas particuliers, soient que leur souffrance soit un petit peu gérée et pour ça, nous faisons tous aider en lisant beaucoup de littérature, en consultant des experts psychiatres parfaitement connus sur la place publique, et véritablement aussi bien en France que dans l'ensemble des pays anglo-saxons, puisque le phénomène a été en premier lieu défini aux États-Unis et au Canada. L'Allemagne se bat beaucoup aussi actuellement. Nous arrivons à une définition nosologique qui nous permet d'avoir un certain sérieux scientifique et médical au niveau de la définition de ce phénomène de manière générale. Voilà.
Alors, je voudrais qu'on explique, parce qu'au départ, j'ai envie de dire que vous avez tous des histoires banales. Je voudrais que vous nous parliez de ce qui vous est arrivé, Christine. Parce que ça touche, il y a déjà beaucoup de fiches qui arrivent, ça touche vraiment nos auditeurs. Alors, on vous écoute.
Ce qui est arrivé, c'est que...
Ce que vous pouvez nous dire.
Tout à fait. Il s'agit d'une séparation très conflictuelle, qui a été très conflictuelle, qui s'est passée à un âge où les enfants étaient adolescents, et donc c'était peut-être pas la période la meilleure. Enfin, je sais pas s'il y a une meilleure période, mais en tout cas là, c'était extrêmement difficile. Et en fait, les enfants ont été tentés par la liberté qui était offerte par le père, la liberté absolue. Et moi, par rapport pour ça, qui essayait de conserver un rôle parental
éducatif
malgré tout, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai dû très rapidement renoncer à ça.
Quand vous dites renoncer à ça, ça veut dire quoi ? Renoncer à éduquer vos enfants ?
Non seulement ça, mais en plus, je n'étais tenue au courant de rien. Les décisions concernant leur scolarité ne m'étaient pas communiquées. Les enfants partaient en vacances, je ne savais pas où, je ne savais pas comment, je ne savais pas où les joindre. Je n'avais pas de contact avec eux pendant des semaines. Et donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, vous êtes obligé de renoncer quand même à assumer le rôle qui vous est normalement imparti. Hein.
Alors, quand on n'est pas dans cette situation, là, c'est Olga qui va reprendre la parole. Bêtement, quand on entend tout ça, on a du mal à y croire, puisqu'on a l'impression qu'on connaît la loi, et on se dit, oui, il y a un parent qui va être lésé, qui verra moins son enfant, mais on est sûr qu'il le verra une fois tous les 15 jours. Qu'est-ce que vous me répondez à ça ?
Alors, c'est là où il y a un petit quiproquo. Effectivement, nous avons des lois qui sont formidables, qui sont très bien faites, très bien écrites, très bien pensées. Mais le problème, c'est l'application de la loi. Donc, par exemple, une loi aussi bonne que celle de l'autorité parentale de 2002 n'est pas du tout applicable ni appliquée en cas de conflit aigu. Alors, je voudrais revenir tout de même sur la définition de l'aliénation parentale, puisque c'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Alors ces conflits parentaux aigus ne concernent évidemment qu'une certaine une certaine partie de la population qui se sépare, qu'on peut estimer tout de même entre 10 et 15%. Et donc ce sont des parents qui n'ont pas les ressources émotionnelles, structurelles, intérieures qui leur permettent de dépasser, de vivre, de se reconstruire après une séparation. Nous avons la rupture d'un couple conjugal qui va entraîner la rupture d'un couple parental. Et donc c'est cet amalgame entre le couple conjugal et le couple parental qui va entraîner vers une prise en otage de l'enfant. Mmh. Alors on parle, qu'est-ce que l'aliénation parentale, le mot fait peur parce qu'on pense à la folie.
Bien sûr.
Alors l'étymologie alien signifie étranger, c'est-à-dire brusquement un parent qui était aimé, un parent aimant, un parent qui vous a élevé, qui vous a donné des soins, qui vous a donné la vie. Mais c'est pas suffisant de donner la vie, ça c'est le parent biologique. Nous sommes ici devant une fonction parentale. Donc c'est non seulement la vie, c'est les soins, l'éducation et surtout l'amour. Et donc ce parent brusquement va être rejeté par l'enfant, qui va le considérer comme un étranger et qui donc va détruire la parentalité de ce parent. Alors j'aimerais vous donner une définition qui permet de fixer un petit peu les idées. On appelle donc c'est ce processus d'emprise et de manipulation exercé par l'un des deux parents qui va amener l'enfant à rompre brutalement, alors j'insiste sur ce mot brutal, tout lien affectif avec l'autre parent et aussi avec tout son environnement familial. Donc là, nous sommes devant, tout à fait, nous sommes devant une, je dirais, le mot n'est pas trop fort, une épuration familiale, et sans aucune raison apparente, et surtout en totale discordance par rapport à la réalité des choses. Donc il faut bien spécifier que nous ne sommes pas face à des maltraitances, mais face à un conflit de séparation parentale où l'enfant est pris en otage. Mmh. Et c'est ça ce que l'on appelle l'aliénation parentale.
Mmh. Alors Luc, je vais vous demander également de nous raconter ce qui vous est arrivé et on verra également comment une histoire d'amour, au départ, où on fonde une famille avec des enfants, peut arriver à une guerre, parce que ce que vous nous dites, c'est une guerre entre deux adultes et au milieu, qu'est-ce qu'on met j'allais dire la chair à canon, c'est l'enfant. Et ça colle pas du tout. Alors c'est peut-être des images très fortes ce matin, mais c'est la réalité. Luc, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais écoutez, moi en fait, donc on l'a dit au début du débat, je n'ai pas vu mon fils qui a 9 ans actuellement depuis 4 ans. Au départ, en fait, il fallait pour mon ex-épouse un argument. Il fallait en fait convaincre le juge. On se tourne tous vers le juge aux affaires familiales lorsqu'une personne désire divorcer, c'est lui qui statue. Et le fait, en fait, d'avoir trouvé l'argument pour moi, ça a été l'argument des accusations d'attouchement qui ont abouti par la suite.
Sur votre petit garçon.
Sur mon petit garçon, oui. Qui ont abouti par la suite, effectivement, je dis un peu trop, effectivement, excusez-moi,
c'est pas grave.
Les auditeurs, c'est l'émotion, qui aboutit à une aliénation parentale, donc depuis 4 ans. Donc mon ex-épouse a, au fur et à mesure du temps, fait un travail de fond, un travail de sape. Elle a utilisé comme un brave petit soldat mon enfant pour mener une guerre contre moi. Le problème, le parent qui, moi je suis le parent, j'en ai beaucoup souffert, j'en souffre encore actuellement. Je fais une parenthèse pour les personnes, les papas et les mamans qui sont victimes de ça. Surtout, il faut en parler, il faut peut-être en parler aux bonnes personnes, mais il faut savoir effectivement exprimer sa souffrance. Parce qu'on a des doutes, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que moi quand j'ai trouvé l'ordonnance de conciliation, je me suis assis par terre, quand j'ai vu ces insinuations, c'était un tremblement de terre.
J'étais blanchi de tout. Hein.
J'étais blanchi de tout, oui, un classement sans suite, une expertise, etc. Mais je ne vois toujours pas mon fils normalement actuellement.
D'après la loi, vous avez le droit de voir votre fils.
Oui, alors je le vois en fait en point rencontre. Alors là encore, bon, personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir le voir dans un point rencontre où les personnes étaient extrêmement compétentes et discernantes sur le sujet. Mais il faut faire attention au point rencontre, parce que l'enfant qui voit son papa ou sa maman au point rencontre, bah, il peut se dire, mais comment ça se fait que je vois un de mes parents au point rencontre, il est peut-être dangereux. Et ça crée en fait un cercle pernicieux chez l'enfant, bah, crée un doute sur l'autre parent. Alors ça peut se passer très bien, mais ensuite l'autre parent peut exploiter ce phénomène. Et moi, actuellement, pour vous exprimer un cas concret, je suis passé par toutes les phases. Je suis passé par les phases « Papa, c'est très bien, il n'y a pas de problème, on va jouer au foot, je veux rester tout seul avec toi pour un compte. » Et puis, 6 mois ou 1 an, 2 ans après, je suis passé par les insultes, je suis passé par le déni, je suis passé par le refus de faire quoi que ce soit avec moi. C'est vraiment très difficile pour un parent de se faire traiter, je ne dirais pas les mots ici, mais c'est très fort de se faire insulter par son propre enfant, sachant qu'on n'attend que des paroles d'amour dans un sens comme dans un autre.
Au moment des insultes, il avait quel âge ?
Oh, il avait, ça continue, hein. Il avait entre 7 et 8 ans.
Bon, bah, je pense qu'à 7 ans, on a peut-être dû lui souffler, parce qu'un enfant, il n'est pas programmé, j'ai envie de dire, même si le mot n'est pas beau au départ, pour insulter son père ou sa mère.
Oui.
Avant une première pause, et ensuite nous passerons la parole à nos auditeurs, Olga, Bernard nous a téléphoné, il voudrait que vous lui disiez ce que signifient les lettres d'ACALPA.
Alors, ACALPA, c'est l'association contre l'aliénation parentale pour le maintien du lien familial.
Très bien, sur ces bonnes paroles, on fait une première pause et juste après nous discuterons avec...
Ce qui reste, c'est l'air.
Les paroles dans le vide avec Alain Chamfort. C'est toujours dans le bistrot de la vie et ce matin, nous recevons une association qui fait beaucoup de choses sur un sujet extrêmement délicat, hein, c'est ACALPA. Nous parlons des enfants otages. La présidente est là ce matin, c'est Olga et puis deux témoins, un papa et une maman. Ils nous racontent leurs souffrances et bien sûr on va évoquer aussi les dégâts, hein, faits sur les enfants et qu'est-ce qu'on peut espérer pour ces enfants dans l'avenir. Je crois qu'on donne tout de suite la parole à Christiane qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour et bienvenue Christiane.
Bonjour à vous tous et je vous remercie. J'ai voulu appeler parce que effectivement j'ai vécu en tant que belle-mère, c'est-à-dire la mère des la dernière femme du père des enfants, les situations d'otage des enfants, et je voulais pas revenir sur ce qu'ont dit nos invités parce que nous l'avons tous traversé, cette histoire d'otage de la mère qui était pourtant reconnue fragile, c'est-à-dire dangereuse à la fois pour elle et pour les enfants. Mm-hmm. Mais rien n'était fait et l'aîné des enfants avait essayé d'attirer justement l'attention sur sa détresse en accusant injustement son oncle maternel d'attouchement sexuel. Or, la famille n'a avoir rétorqué en me calomniant personnellement, en disant que c'est moi qui l'ai poussé à dire ça. Donc une enquête a été demandée par le juge des enfants, juge matrimonial, pardon, et qui a démontré qu'en fait ces enfants étaient complètement perdus, qu'elles n'avaient plus aucun repère, parce que la mère passait son temps à dénigrer le père, et qu'elle ne s'occupait pas des enfants. Donc l'enquêtrice sociale avait demandé qu'on place les enfants pour les protéger dans un foyer et qu'on fasse faire une psychothérapie familiale afin de remettre les parents et les enfants à leur juste place. Malheureusement, moi je suis très très triste parce que la justice n'a absolument pas suivi cette demande de l'enquêtrice sociale. Elle n'a fait que transférer les enfants de la garde de la mère à la garde du père. Alors comme pour la mère, elle l'a reçu comme étant un déni de sa capacité d'être mère, elle a écrit au juge en disant qu'elle ne voulait plus du tout s'occuper des enfants. Donc ça fait 10 ans qu'elle ne voit plus du tout les enfants de sa propre volonté, après avoir essayé de tout faire pour que les enfants ne voient plus leur père. Donc les enfants à l'heure actuelle, ça fait 10 ans qu'elles sont entre les mains de psychologues et maintenant de psychiatres, parce qu'elles ont très mal vécu déjà une attitude de soi-disant aide psychologique, où ils étaient partis dans des a priori. La mère doit absolument garder les enfants, quelles que soient ses actions négatives. Le père, ça ne sert à rien qu'à gagner de l'argent de la famille. Le beau-père, parce que la belle-mère s'était remariée avec un homme qui était très gentil en plus avec les enfants, le beau-père n'était qu'un captateur de belle-mère. Et moi, la belle-mère, j'étais soi-disant une captatrice d'enfants, parce que moi, mon enfant était majeur et donc, soi-disant, j'étais en manque de maternité. Les enfants avaient beau expliquer, on leur disait non, 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 c'est votre belle-mère qui vous fait dire ça. Et du coup, elles sont maintenant détruites dans l'image qu'elles ont des hommes, l'image qu'elles ont de la mère, parce que pour elles, on a dénigré tellement le père et qui n'a pas réussi. Et à l'époque, j'entends le monsieur qui nous expliquait à votre radio, n'a pas réussi à dire, mais je suis un père, je suis capable aussi d'élever les enfants. Ça a été démontré par l'enquête sociale. Non, 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 n'écoutez pas, vous, taisez-vous, point final. Et presque, allez en psychothérapie parce que vous êtes malade, parce que vous désirez vivre avec vos enfants. Et moi, on m'a reproché mon aide affective, éducatrice, etc. auprès des enfants. Ce ne sont pas vos enfants, laissez-les. Je devais les considérer comme des petits chiens, c'est-à-dire leur donner la manger, repasser leurs affaires, puis surtout pas de dialogue et surtout pas d'amour. Pas d'amour.
Alors, même si c'était pas captatif. Christiane, ce qui est très intéressant dans ce que vous nous racontez, c'est qu'on vous écoute tous extrêmement attentivement. Nous sommes des adultes et nous trouvons ça vraiment très compliqué. Alors.
Et je dois vous dire, j'ai dû me battre pour faire entendre les enfants. J'ai dû menacer de mettre les dossiers aux mains des médias pour qu'enfin le juge des affaires familiales veuille non seulement m'écouter, parce qu'elle me refusait, et écouter les enfants.
C'est tellement compliqué qu'on se met cette fois-ci à la place des enfants. Ça doit être terrible pour eux. Terrible. Alors, Christiane, on vous remercie infiniment de ce témoignage. Gardez le moral, mais on va revenir sur votre témoignage avec vous, Olga. Un mot sur la justice, quand même. Ça, c'est important. La justice.
Alors, la justice, vous m'avez posé la question qui concerne...
Allez-y.
Vous m'avez posé une question qui concerne nos lois. Et je vous ai répondu, nos lois sont vraiment formidables, elles sont très bien faites, mais on a un gros souci avec leur application. Alors déjà, on a une grande lacune dans notre pays, c'est l'absence de politique de prévention, notamment dans le domaine des conflits parentaux. Donc nous sommes face à des situations qui se sont cristallisées et avec le temps deviennent extrêmement difficiles à gérer et ne peuvent plus recevoir de réponse judiciaire adéquate. Donc l'absence de prévention et une autre difficulté, c'est le temps de réponse. La justice est très très lente et là il faut vraiment tirer un signal d'alarme. Avec les enfants, nous sommes dans des temps différents. Le temps de l'enfance, ce n'est pas le temps des adultes et encore moins le temps des procédures. Il faut savoir qu'en France, pour avoir une procédure d'appel, vous avez entre un an et demi, vous avez en moyenne un an et demi d'attente. Les enfants sont grands, après 4 ou 5 ans de procédure, ils sont majeurs. Ça, c'est du point de vue juridique, mais c'est 5 ans de souffrance et de rupture de lien.
Alors, Olga, je voudrais que vous donniez à nos auditeurs ce matin l'exemple que vous m'avez montré avant l'émission, c'est-à-dire l'exemple d'un divorce, d'une séparation dite classique, même si le divorce est tout sauf anodin. Et je voudrais que vous nous expliquiez où on en est. Alors, qu'est-ce qui se passe là, sur ce divorce ?
Alors ça, c'est un exemple chiffré, puisque nous sommes dans une société numérique qui n'arrive à comprendre des phénomènes qu'avec des chiffres. Mais il y a tout de même des choses que l'on ne peut pas chiffrer, c'est la souffrance et la détresse. Mais il y a tout de même un moyen de faire comprendre que les situations sont difficiles. Par exemple, je vais vous montrer un exemple de situation de séparation parentale très conflictuelle. Au départ, c'est simple, c'est la séparation d'un homme et d'une femme qui veulent prendre des chemins de vie différents. Cet homme et cette femme ont 3 enfants. Donc ils commencent par une procédure de non-conciliation. Alors 5 ans après, ils ne sont toujours pas divorcés. Les enfants sont en rupture de lien total avec l'une des deux familles. Et pendant ces 5 ans, ces personnes ont rencontré 14 juges, dont 2 juges pour enfants, 3 JAF et 9 juges en cour d'appel. 7 avocats, 6 avoués, 6 huissiers. Ils ont passé par 4 expertises psychiatriques, 5 psychiatres indépendants. Une équipe d'urgentistes a dû intervenir à l'un des domiciles. Également un pédiatre et 2 médecins généralistes dans le cadre de consultations dans un CMP. 4 assistantes sociales, 3 éducatrices lors d'une AMO et d'un point rencontre. 3 thérapeutes médiateurs qui ont échoué totalement dans leur tentative de conciliation et de médiation familiale. 10 de policiers puisque les enfants étaient amenés à fuguer. Et 40 de témoignages.
Alors, pour quel résultat ?
Aucun. Une destruction, une ruine financière de part et d'autre, et une destruction des familles. Parce que quand le divorce devient une guerre à ce point, il n'y a pas de perdants ni de gagnants, il n'y a que des victimes. Et ça, c'est inacceptable. Alors, c'est inacceptable pour les familles, c'est inacceptable pour les enfants qui ont des années de thérapie devant eux pour se reconstruire une identité qui pour l'instant est vide, et c'est inacceptable pour la société.
Alors, on parlera des enfants et de leur avenir en dernière partie d'émission. Juste avant, je veux qu'on revienne sur les parents, parce qu'au départ, ils sont extrêmement touchés. Hein. Et Luc et Christine ont eu la gentillesse de venir témoigner. J'ai un message qui arrive de Marseille pour vous, Luc. C'est de la part d'Élisée. Il nous explique que suite à une rupture, il a vécu la même situation que vous avec votre fils. Lui, c'est avec sa fille. Donc il a été accusé des mêmes choses que vous. En plus, cette petite fille a un handicap mental. Il voulait vous dire ce matin qu'il faut garder espoir, car seule une expertise l'a sauvé, c'est ce qui vous a sauvé aussi, mais il faut que vous alliez encore plus loin et que vous continuez. Alors, Christine, merci beaucoup à Élisée. Hein. Christine, mis à part l'inquiétude évidente, hein, qu'on se fait pour ses enfants, je voudrais que vous nous parliez de la douleur d'une mère. Comment elle s'est traduite, cette douleur? Parce que de plus voir ses enfants, puis après on verra la douleur d'un père, c'est au départ quelque chose d'inimaginable.
C'est-à-dire qu'au départ, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. En ce qui me concerne, moi, j'ai vraiment mis du temps à comprendre, à mettre des mots sur la situation. Parce que, comme disait Luc tout à l'heure, on se pose des questions devant toutes les accusations qui sont proférées. Moi, j'étais aussi victime d'insultes. Les enfants se conduisaient parfois comme des petits terroristes. Ils venaient chez moi pour faire des règlements de compte et ils repartaient en pleine nuit tout seuls. On n'avait pas du tout... on ne pouvait rien faire pour empêcher tout ça. C'était complètement incontrôlable. Et la souffrance, on a l'impression qu'on devient fou. Hein. Enfin, en ce qui me concerne...
Vous n'aviez jamais eu envie, parce que vous n'aviez pas les possibilités, vous étiez devant un mur, vous ne pouviez pas vous justifier auprès de vos enfants?
Le problème, c'est qu'au début, j'ai passé mon temps à me justifier, mais on n'en sort pas. On se justifie en permanence, ça n'arrêtait plus. Ils me demandaient sans arrêt de me justifier. Une accusation chassait l'autre. Donc, je pense que c'est le résultat de la manipulation.
Pour vous, la manipulation, elle vient du papa?
Oui, tout à fait.
Et vous n'avez jamais décroché votre téléphone pour parler à votre ex et lui dire, bon, est-ce que tu vas arrêter? Tu détruis nos enfants.
Je l'ai déjà eu au téléphone, mais ça ne sert à rien, il ne comprend pas, ou alors il ne veut pas comprendre. Enfin bon, de toute façon, je ne veux pas savoir quels sont ses sentiments dans cette affaire, parce que de toute façon, maintenant, pour moi, c'est les enfants ont 21 et 23 ans, il y a des années de gâchés, et une relation qui est très très détériorée, qui aura beaucoup de mal à se reconstruire, si elle se reconstruit.
Vous avez quoi comme espoir que maintenant qu'ils sont adultes, un jour, ils auront envie de voir leur mère?
C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, c'est moi qui ai des difficultés à renouer avec eux, plutôt que eux, je pense, parce que il faut voir que pendant toutes ces années, j'ai été amenée à faire un travail de renoncement, en quelque sorte. Je ne vais peut-être pas utiliser le mot deuil, mais c'est presque ça, parce que à un moment je ne pouvais tellement plus supporter leur absence que j'étais obligée de faire ce travail-là. Et donc maintenant, pour moi, c'est extrêmement difficile. Je suis très très malheureuse, mais en même temps, j'ai énormément peur de les revoir. Mais c'est une peur énorme. J'ai la peur au ventre, si on peut utiliser ça.
Il va falloir travailler sur cette peur.
Voilà.
Ce qui n'enlèvera jamais les années que vous avez perdues.
Oui, mais vous savez, les années qu'on a perdues, de toute façon, on ne peut pas les récupérer. Ça,
c'est logique, hein, de voir grandir son enfant. C'est ça aussi. Hein.
Ah oui, oui. Oui, mais bon, ça, c'est... Voilà.
Cette peur au ventre, il va falloir la surmonter.
La surmonter, oui, mais je pense que ça prendra du temps.
Alors, Luc, vous, votre souffrance, comment elle s'est exprimée? Parce que c'est difficile de plus voir son enfant. C'est très difficile déjà de se séparer de l'être aimé.
Hein, oui, tout à fait. Mais écoutez, en fait, je n'étais pas, comme je l'ai dit en premier lieu, je n'étais pas complètement séparé. C'est-à-dire que je voyais mon fils dans un point rencontre, dans des conditions pas faciles. Mais le message que je voudrais passer en disant cela, c'est qu'il faut à tout prix, dans la mesure du possible, essayer de garder contact. Quel que soit ce contact, évidemment, il y a des contacts difficiles, des contacts qui peuvent être destructeurs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de se faire aider. Moi, je me suis aussi fait aider. Je suis catholique pratiquant. Je pense que Dieu m'a aidé. Et moi, je dirais que j'ai quitté un enfant il y a 4 ans en très bonne santé physique et mentale. Et actuellement, par le biais des enquêtrices sociales, on me rapporte que mon fils désire se passer par la fenêtre. Voilà. Alors moi, j'envoie un message à mon fils, je lui dis que de toute manière, je lui ai pardonné, que toutes les insinuations, toutes les phrases qu'il a pu dire, qui sont maintenant clairement explicitées, analysées, de toute manière, je sais ce qu'il en est, je sais qu'il a été influencé, je sais qu'il a été manipulé, donc il est pardonné, et en conclusion, je lui dis que Dieu l'aime, Dieu nous aime, et qu'un jour, on retrouvera une relation normale.
Très bien. Vous m'avez parlé de votre fils, parce que c'est ce qui est le plus important pour vous. J'aimerais que vous me parliez un peu de vous, quand même. Comment vous avez traversé cette période? Vous avez réussi Vous avez la foi, donc Dieu vous a aidé, mais est-ce que ça a été difficile de continuer à travailler, de continuer à avoir une vie sociale normale avec les amis?
Ça a été très difficile. J'ai eu, parce qu'en fait, initialement, le choc a quand même été quelque chose de très vif, de très aigu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, à partir de là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir exprimer ma détresse relativement rapidement, paradoxalement, à ma belle famille, donc aux parents de mon ex-épouse.
Oui, c'est paradoxal, ça.
Qui ont très bien compris la situation, qui au départ effectivement mettaient un point d'honneur à rester neutre, et pour eux c'était pas facile d'entendre que leur propre fille commettait un tel crime, en fait, parce qu'on peut parler d'un crime psychologique envers leur petit-fils qu'ils ne voient plus. Donc mon fils ne voit plus ni son père, ni ses grands-parents, ni ses oncles, ni ses tantes. Il est coupé de tout le monde. Il ne voit donc plus que sa maman et le compagnon de sa maman, qui m'a très vite remplacé au bout de 2 jours chez moi, puisque j'ai été expulsé très rapidement. Donc en fait, les accusations d'attouchement étaient tout à fait liées à l'opportunité pour madame de me faire remplacer dans le lit conjugal le plus rapidement possible, avec tous les dégâts, malheureusement, pour mon fils actuellement. Donc dans une situation psychologique absolument insoutenable, mais en se fixant des objectifs, parce qu'on rentre en fait, on rentre dans une c'est pas la guerre sainte là, mais on rentre dans effectivement une guerre du couple. Malheureusement, j'aurais préféré ne pas y rentrer.
Et une spirale infernale.
Donc il faut absolument conserver son travail. Olga l'a très bien exprimé, on peut rencontrer de très rapidement de très grosses difficultés financières, parce que les papas, il faut savoir que dans la majorité des cas, ils sont expulsés. Donc en fait, on ne dispose plus du domicile, bien évidemment. Donc il faut se reloger, il faut payer son avocat et
une pension,
une foultitude, oui, pour l'enfant. Moi j'ai eu la chance d'être logé paradoxalement chez mon beau-père, qui m'a dit: écoute, jamais le père de mon petit-fils dormira sous les ponts. Mais nous, dans d'autres associations à Calpa aussi, on a vu des gens dormir à l'extérieur, jetés comme des malpropres de chez eux. Donc il ne faut pas que les difficultés financières se surajoutent aux difficultés psychologiques. Donc garder son travail, c'est aussi important.
Alors on comprend bien, après une nouvelle pause, on va parler bien sûr des répercussions sur les enfants. Je sais que c'est difficile pour vous, mais d'un oui ou d'un non, est-ce que vous avez dépassé, Christine, la culpabilité, parce que vous êtes sentie coupable?
Oui, on se sent forcément coupable, d'autant que, avec toutes les accusations qui pleuvent dans le cadre de l'aliénation parentale, on se pose des questions tous les jours. La culpabilité, oui, je l'ai dépassée maintenant.
Et vous aussi, Luc?
Écoutez, je vais vous citer une anecdote. En fait, au début, j'ai donc, comme je l'ai dit, conservé l'amitié de pas mal de personnes, et donc des personnes avec des enfants. Et au départ, on se pose la question, on va dire, mais dans le cas de contact avec des enfants, il m'est arrivé d'avoir les enfants d'amis qui viennent sur mes genoux, demander de lire quelque chose, de jouer avec un jouet. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais être jugé? Bon, ça a relativement disparu rapidement, mais c'est effectivement quelque chose qui m'a touché, qui m'a perturbé au tout début de mon histoire.
Alors, on va, Olga, on vous donnera la parole, mais là, il faut vraiment qu'on fasse une pause, et puis on parlera pour la fin de cette émission. Ce matin, vous le savez, nous parlons de ces enfants otages du divorce des parents. Luc et Christine sont venus témoigner, et puis Olga est la présidente de l'association Acalpa, elle est là pour bien nous aiguiller. Vous vouliez rajouter un mot, Olga, sur la culpabilité?
Oui, je pense que la pire des culpabilités que ressentent absolument tous les parents qui sont donc rejetés par leurs enfants, c'est la culpabilité de n'avoir pas su protéger les enfants. Parce qu'en étant rejeté, on n'arrive plus à exercer quelque chose qui est beaucoup plus important que ses droits, c'est le droit à ses responsabilités parentales. Et donc on est privé de son image de parent et de sa fonction, non pas biologique, mais de sa fonction symbolique et de ce qui fait le lien entre un parent et un enfant.
Alors d'un autre côté, puisque nous allons terminer cette émission, et ça va être l'essentiel des préoccupations des parents qui sont dans cette situation, parce que leur souffrance en tant qu'adultes, ils essayent de tout faire pour la surmonter. Ce qu'il va arriver à leurs enfants, c'est plus complexe. On inverse les tendances, puisque Marie-Josée nous dit qu'elle a 40 ans quand ses parents se sont séparés. Elle aussi, l'enfant se sent coupable aussi. Et elle dit que ça met très longtemps aussi pour les enfants à voir disparaître cette culpabilité. Luc, qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour l'avenir de vos enfants, de votre enfant, pardon?
Bah, ce qui m'inquiète, c'est du prospectif, mais comment va-t-il évoluer? Enfin, j'essaye de le suivre à l'école, et je dois dire que je n'ai eu aucun problème de ce côté-là. J'ai dû me battre pour des petits détails, mais comment va-t-il évoluer dans son image du père, dans son image de la mère, dans son équilibre vis-à-vis du respect des autorités, parce qu'il y a des choses qui commencent un petit peu à poindre à cause de l'absence de toute autorité, parce que la mère ou le père qui veut aliéner l'enfant, ben, elle a tout intérêt, entre guillemets, à le séduire, c'est-à-dire à tout passer, c'est-à-dire que l'enfant devient l'enfant roi. Il n'est plus laissé à sa place d'enfant. Qui est assez fondamental pour le développement de tout individu. Il est placé dans le cadre de raisonnement d'adulte. On lui demande toujours où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire. À la limite, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ton autre parent? Ton autre parent, il est pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il est dans la place de quelqu'un qui a dit des phrases qui permettent de ficher en l'air la vie de l'autre parent. Et effectivement, il y a la culpabilité qui joue. Et c'est pour ça que je dis et que je redis que moi, par avance, tout est pardonné, il n'y a aucun souci, et je lui répète en permanence, et quand je lui dis ça dans un point rencontre, quand je lui dis que de toute manière je t'ai tout pardonné, il se met à pleurer, et moi je pleure aussi, et la psy pleure, tout le monde pleure, mais c'est vraiment dur.
Oui, c'est très difficile. Ils sont adultes les vôtres, Christine, mais on sait bien que une maman, un papa, qu'on soit adulte ou pas, ils seront toujours inquiets. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus concernant vos enfants
dans la vie proche? Sur le plan intellectuel, ils ont l'air de se débrouiller au niveau scolaire, etc. Ça a l'air de bien se passer. Par contre, c'est vrai, comme Luc, leur construction personnelle, l'image qu'ils ont de leurs parents, moi j'ai même carrément honte de leur avoir donné une image comme ça, parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, mes enfants, je leur voulais une vie simple, normale, heureuse. Et en fait, on s'est tous déchirés. Moi, c'est pas du tout ce que je voulais. Et moi, mes enfants, je les aime toujours, même si j'ai parlé tout à l'heure de deuil. Mais je reviendrai vers eux que le jour où ils me diront « Maman, on t'aime ». Et là, je leur pardonnerai tout. Hein. Tout sera oublié. Mais s'ils me disent pas ces mots-là, je pourrai pas revenir.
Il va falloir faire un travail, parce que bien souvent ils ont du mal à le dire, mais ils le pensent.
J'ai besoin d'entendre qu'ils m'aiment, et parce que j'ai eu trop l'impression pendant toutes ces années qu'ils me méprisaient, que je n'étais rien du tout. J'ai beaucoup de mal moi-même à me reconstruire. Eux, ils doivent avoir du mal aussi, mais moi aussi. Et s'ils m'écoutent aujourd'hui, j'espère. Hein, je leur dis, j'espère qu'on va retrouver ce qu'on avait avant, quoi, quand ils étaient petits.
Je vous le souhaite en tous les cas. Olga, est-ce qu'on peut, chaque cas est particulier, mais beaucoup se ressemblent. Est-ce qu'on peut donner un peu une liste de tous les dégâts qui peuvent arriver à ces enfants? Parce que je sais même pas s'ils pourront un jour avoir une vie eux-mêmes, construire leur propre famille, se marier, avoir des enfants.
Alors évidemment, chaque famille est un cas séparé, mais vu l'ampleur des phénomènes de séparation parentale qui s'inscrit déjà dans notre société de demain, cette séparation est inscrite, le nombre croissant de séparations conflictuelles qui n'ont pas de réponse judiciaire appropriée, nous sommes devant des milliers, des centaines de milliers d'enfants qui vont se construire leur identité sur une moitié de vide, c'est-à-dire un parent, une famille absente, et l'autre moitié qui s'est investie dans la haine, dans le déni et dans le mensonge. Alors, ces enfants seront des enfants fragiles. Ils vont compenser cette fragilité, ils vont avoir des stratégies de survie, comme tous les enfants, soit vers un surinvestissement scolaire que les juges traduisent à tort, comme l'enfant va bien, c'est le bien-être de l'enfant, l'enfant est équilibré, il travaille bien à l'école, mais un enfant peut être totalement schizophrène et bien travailler à l'école, ou alors par une fuite. Mais ce ne sont pas des constructions identitaires positives. Ils sont dans une destruction d'eux-mêmes ou des autres. Et là, vous avez soit des enfants qui vont sombrer dans la dépression, dans la perte d'estime de soi, dans la perception très fragile de la réalité, ils ne font pas confiance, ils sont un petit peu paranoïaques, ils se replient sur eux-mêmes, un évitement des contacts sociaux, ou au contraire, un surinvestissement des enfants qui sont dans la toute-puissance, qui prennent le pouvoir et qui vont se construire sur un modèle de perversité, de manipulation et de, je dirais même, de terreur sociétale. Et ça, ce sont des enfants redoutables. Mais nous sommes vraiment face à un problème social.
Olga, d'un côté comme de l'autre, hein, si on prend les extrêmes, vous êtes en train de nous dire que on peut arriver à avoir des adultes plus tard qui n'auront aucune conscience de ce qu'est la réelle humanité finalement.
Absolument. Absolument, parce qu'ils ont été coupés de leur passé, ils auront beaucoup de mal à construire leur avenir. Voilà.
Alors, beaucoup de fiches hein, ce matin, on va pas toutes les lire, mais je prends l'exemple de Micheline, séparée depuis 11 ans, en jugement depuis également 11 ans. L'ex, le papa veut la garde totale de sa fille, pour l'instant ils sont en garde alternée, pardon. Ça va de plus en plus mal parce que la petite, quand elle est chez son père, eh bien, elle n'a pas le droit d'appeler sa maman. Que faire, voyez, ça peut paraître des détails, mais un coup de fil, qu'est-ce que c'est important. Marie-Pierre qui nous parle, elle est grand-mère, qui nous parle de sa fille, qui a demandé une expertise pour ses enfants, le juge a refusé et il a même donné une amende à sa fille. Tout le monde nous dit que faire, que faire. Est-ce que votre association, qu'on ne trouve pas qu'à Paris, hein, vous êtes dans plusieurs régions, peut aider?
Alors, ACALPA a une démarche. Vraiment. D'abord, elle a un site internet que j'invite tout le monde, tous les professionnels et les familles à consulter.
www.acalpa, comme ça se prononce, .org. C'est très simple.
Alors, ACALPA a une démarche qui est transversale entre les familles et les intervenants professionnels, mais également les pouvoirs publics. Alors, nous travaillons dans plusieurs directions. Un, c'est la mise en place d'une prévention avec des stages de guidance parentale à la séparation pour apporter un soutien effectif aux parents qui ont des problèmes de séparation conjugale et qui risquent d'avoir des répercussions sur leur responsabilité parentale. Donc, un soutien, d'un autre une amélioration des pratiques judiciaires, je pense notamment aux médiations qui existent mais qui nous sont proposées en fin de parcours judiciaire et de ce fait là ne servent à rien.
Ça arrive un peu tard.
C'est trop tard. Alors si ces médiations sont imposées, elles sont proposées et c'est là où nous sommes devant, je pense, une approche qui n'est pas la bonne. En cas de conflit armé, on ne propose pas la paix, on l'impose. On désarme les parties en présence, on désarme les parents et on impose la paix pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Là, je pense qu'il n'y a aucune équivoque.
Ouais. Alors, on va conclure cette émission en souhaitant à Luc de pouvoir un jour jouer au ballon et se promener dans un jardin public avec son enfant et ne pas être seulement dans des endroits réservés. Je souhaiterais également que vos enfants, même s'ils sont devenus adultes, puisse vous dire qu'il vous aime, Christine, parce que vous valez le coup. Et puis je dois dire que même si c'est que de la radio et pas de la télévision, vous aviez un voile de larmes chaque fois que vous preniez la parole ce matin, et ça, faudrait que ça disparaisse pour que vous soyez un petit peu mieux. Merci en tous les cas. Vous faites un travail depuis 2 ans qui touche énormément de familles, puisqu'on l'a dit, c'est pas tout à fait quantifiable. Je voudrais qu'on termine cette émission en rappelant que même si 2 adultes se sont aimés, qu'ils ont voulu fonder une famille et qu'un jour ça ne va plus, quelles que soient les raisons, qu'ils règlent ça entre eux. Je crois que c'est le message aussi essentiel. Réglez ça entre vous et ne mettez pas les enfants au milieu. Olga, c'est le message le plus important au départ. Oui,
tout à fait. Et un dernier message, nous sommes face à une multiplication des droits individuels et malheureusement, ça a totalement occulté le débat sur les responsabilités que nous avons. Et la loi n'est peut-être pas là tant pour défendre nos droits que pour fixer les frontières
et les limites. Je rappellerai une de vos phrases, vous dites qu'on est dans une société de chiffres. sauf qu'on n'arrive pas à chiffrer la douleur, et la douleur elle est réelle, pour les parents et pour les enfants. Merci infiniment, continuez cette lutte, je pense que vous allez être contacté ce matin par pas mal de personnes, après votre passage ici, je crois que les gens ont besoin de vous, et vous avez aidé sûrement ceux qui n'avaient jamais osé en parler autour d'eux, et qui vous aient écouté attentivement ce matin. Très bonne journée, merci de votre visite, merci à Luc et Christine d'avoir eu le courage de venir témoigner. À très bientôt, je vous souhaite bon courage et nous on se retrouve demain matin pour un autre sujet. Nous parlerons de la maladie qui fait peur, la maladie du 21e siècle, si le 20e siècle c'était le cancer. 21e siècle, celle qui fait peur, c'est la maladie d'Alzheimer et pourtant il y a des progrès, on la dépiste de plus en plus tôt. Rendez-vous demain matin.
Notre-Dame. Vous voulez toutes les dernières infos sur l'église à Paris ? Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe. Le 1er septembre, un numéro spécial JMJ. Retrouvez les moments forts de ces JMJ avec des extraits des catéchèses et des principales interventions de Benoît XVI, accompagnés de témoignages et de photos. Et dans Paris Notre-Dame, chaque semaine, tous les programmes de Radio Notre-Dame. Contactez le 01 56 56 44 10.
Discovery Real Time, Fox Life, Nickelodeon, Sci-Fi, OLTV, Azibou TV. CanalSat a sélectionné pour vous 14 nouvelles chaînes et services exceptionnels. Grâce à CanalSat et toutes ces nouvelles chaînes, videz encore plus intensément vos passions.
CanalSat. Ce qui vous passionne est forcément sur CanalSat.
En ce moment, vous avez 3 mois pour découvrir tout CanalSat. Appelez le 3910, 23 centimes d'euros la minute depuis un poste fixe, voire conditions des offres en magasin.
Les médias en question, médias, opinion et société, rencontres et réflexions pour chercher à donner un sens à l'actualité.
Les médias en question, présentés par Emmanuel Delataille, tous les vendredis à 17h.
RadioNotre-Dame.com vous invite sur le net. 24h sur 24, écoutez nos programmes, consultez-les en détail et correspondez avec nos animateurs. Profitez de notre sélection de livres et de disques et commandez-les d'un simple clic. Radio Notre-Dame sur Internet, c'est aussi l'état de la circulation en Ile-de-France et les prévisions météo détaillées. RadioNotre-Dame.com vous permet également d'être en lien direct avec le Vatican, l'Église catholique de France et votre diocèse. Radio Notre-Dame sur Internet, www.radionotredame.com.